Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 2, Terra Mater, Déméter ou Cérès. Homère est si brillant qu'il empêche de voir le long passé qui déjà est derrière. Il l'enténèbre à force de lumière, comme un éblouissant portique de marbre de Paros qui, miroitant sous le soleil, ne permet pas de voir l'immense temple, l'antique sanctuaire dont il masque l'entrée. Si l'on partait d'Homère comme de la Grèce primitive, elle resterait un miracle inexplicable. Elle aurait jailli tout armée comme Pallas, la lance à la main. Elle eût été à sa naissance déjà grande et adulte, tout au combat, à l'esprit d'aventure. Ce n'est jamais ainsi que commencent les choses. Échille, le profond Échille, fort justement, appelle les dieux d'Homère les jeunes dieux. L'un de ces jeunes, le dieu aux flèches d'or qui sème la mort dans le camp grec, le dieu dorien, Apollon, fait tout le nœud de l'Iliade. La naissance veut un doux berceau. Rien ne vient de la guerre. La paix et la culture, la famille agricole, voilà qui est fécond. Tout naît de la terre, de la femme. Ainsi naquit la Grèce à la mamelle de Cérès, divinité antique qui paraît peu dans les poètes, beaucoup dans la tradition, et fut la vie du peuple même. Elle n'est originairement rien autre que la terre, terra mater, Déméter. La bonne mère nourrice, si naturellement adorée de l'humanité reconnaissante. Avant qu'on ne bâtît des temples, dans les grottes qui en tenaient lieu, les Pélages, premiers habitants de la Grèce, honoraient Déméter. Ce culte se maintint tout rude et primitif dans l'antique Arcadie qui se croyait plus antique que la lune même, Procélénée. Et qui, fermé par ses montagnes, ses forêts, restait le sanctuaire sauvage des anciennes religions. Les siècles eurent beau passer, les Homères et les Phidias, quand tout rayonnait d'art, et jusqu'à la fin de la Grèce, la fidèle Arcadie gardait ses premiers dieux. On allait voir toujours, nous dit Pausanias, un simulacre informe où l'audace du génie barbare avait entrepris pour la première fois d'exprimer la personnalité si complexe de la terre. Elle était noire comme le sol fécond et portait toute bête sauvage. Comme soutien de l'eau et de l'air, elle avait dans une main la colombe, dans l'autre le dauphin. Le tout couronné de la tête du plus noble animal qu'elle produise, le cheval. Image discordante et grossière qui ne donnait que l'extérieur. Le génie grec ne s'en contenta pas. Il voulut exprimer l'intérieur de la terre, son mystère, sa maternité, et il lui donna une fille. Cette fille, qui est elle-même, vue par un aspect différent, c'est la terre en ses profondeurs sombres, fécondes, remplies de sources, de volcans, muet abîme où descend toute vie, fatal royaume où tout doit aboutir. C'est la vraie Cérès noire, la souveraine, l'impérieuse, la Despoina, dame ou Notre-Dame, Perséphone ou Proserpine. Elle a l'air d'être de l'âge de sa mère. Dans l'Arcadie encore, une enceinte sacrée où plus tard on bâtit des temples offrait un simulacre de Despoina et près d'elle un titan, un de ces génies de la terre qui en représentait les forces inconnues. Était-ce le père de Despoina? Très vraisemblablement. Plus tard, quand Jupiter naquit et confie Despoina sa fille, on subordonna ce titan, qui ne fut plus que nourricier de la déesse. Cérès et Proserpine, la terre d'en haut, la terre d'en bas, étaient fort redoutées. Sans l'une, on ne vit pas, et l'autre, tôt ou tard, nous reçoit au royaume sombre. La guerre, l'invasion qui ne respectait rien, s'arrêtait devant leurs autels. Elles eurent partout des sanctuaires dans la pélagique Dodone, dans la mystérieuse Samothrace, où elles s'adjoignaient au génie du feu, dans la volcanique Sicile, et spécialement au grand passage qui ouvrait ou fermait la Grèce, au défilé des Thermopyles. D'Eleusis, elle couvrait l'Attique. L'Arcadie nomma Proserpine Soteira, vierge du salut. Culte touchant, de très simples données, c'est chose merveilleuse de voir tout ce que la Grèce y trouva. Nul poème, nul statue, nul monument ne lui fait tant d'honneur que sa persévérance ingénieuse à fouiller, à creuser ce saint mystère de l'âme de la terre, la pénétrant de mythe en mythe par une création progressive de divinités ou de génies, par une série de fables très sages et profondément vraies. Le charmant génie ionique s'y maria avec la gravité des races plus anciennes, des Pélages, parents de la vieille Italie. Une religion en résulta, toute de paix et d'humanité, liée à Hestia, Vesta, pur génie du foyer, liée à la sage Thémis, qui semble n'être que Cérès. Cérès à Thèbes et à Athènes a rapproché les hommes et fait les lois. Point de culture sans l'ordre. La justice est née du sillon. Le peu que nous savons de cette primitive Grèce indique des mœurs fort douces, plus rapprochées peut-être de l'origine indienne, du génie humain des Védas que de l'âge guerrier que nous peint l'Iliade. Les plus anciennes traditions qui en restent sont relatives à la profonde horreur qu'inspirait l'effusion du sang, surtout les sacrifices humains. Ils étaient détestés comme chose propre aux barbares, frappés de châtiments terribles. Pour avoir immolé des hommes, Lycaon est changé en loup. Tantale est puni aux enfers d'un supplice cruel, la soif atroce que rien n'apaisera. Ce qui est tout à fait indien, ce qui même semble brahmanique, c'est le scrupule qu'on se faisait de tuer les animaux. Des rites de haute antiquité restèrent pour témoigner toujours du combat qui troublait ces âmes naïves, ayant horreur du sang, et pourtant condamnées par le climat, par le travail, aux nourritures sanglantes. Pour immoler une victime, on tâchait de la croire coupable. Un gâteau sacré sur l'autel était mangé par le taureau. Ce sacrilège eût amené sur le pays la vengeance céleste. Il fallait punir le taureau. Mais tuer cet ancien serviteur, ce compagnon du labourage, personne n'en aurait eu le cœur. On appelait un étranger. Il frappait et il s'enfuyait. Une enquête solennelle était faite sur le sang versé. Tous ceux qui avaient pris la moindre part au sacrifice étaient cités, jugés. L'homme qui avait présenté le fer au sacrificateur, celui qui l'avait aiguisé, les femmes qui, pour l'aiguiser, avaient apporté de l'eau, tous étaient mis en cause. Ils s'accusaient, se rejetaient l'un sur l'autre. En dernier lieu, tout retombait sur le couteau, qui seul, ne se défendant pas, était condamné, jeté à la mer. On faisait au taureau la réparation qu'on pouvait. Relevé, empaillé, remis à la charrue, il semblait vivre encore, reprendre avec honneur le travail de l'agriculture. Ces populations pacifiques étaient malheureusement inquiétées par la mer et les îles d'où les pirates d'Asie, de Phénicie, faisaient à chaque instant des descentes pour voler des enfants, des femmes, cruels enlèvements. Portés en un moment et vendus en Asie, ces pauvres créatures ne se retrouvaient plus jamais. Des temps les plus anciens jusqu'aux barbaresques modernes, même malheur, même douleur, même cri. Les poètes, les historiens ne parlent que d'enlèvement. Cette Io, cette Europe, cette Hésione, Hélène. Chose encore plus cruelle, l'affreux tribut d'enfants payé au Minotaure. Homère a peint la muette douleur du père qui a perdu sa fille, qui, morne, suit la plage où l'onde amère bondit, outrageuse, et rit de son deuil. Que dire du désespoir des mères quand la barque fatale emporte leur trésor, quand la fille est pleurée, quittant en vain les bras, fuit et disparaît sur les flots. Ces tragédies, certainement, surtout l'inquiétude et l'attente de si grands malheurs, contribuèrent plus qu'aucune chose à affiner cette race, à lui donner de si bonne heure la sensibilité puissante d'où sortit sa grande création religieuse, la légende de Cérès et de Proserpine, la pathétique histoire de la passion maternelle. Il n'y fallut pas de fiction, tout fut nature et vérité, et c'est ce qui fit la chose si durable, si forte, éternelle. L'humanité en garde encore l'empreinte, et elle la gardera toujours. Chaque année, en voyant la plante séparée de sa fleur, celle-ci s'envolait, à jamais perdue pour sa mère. Le cœur était percé d'une analogie douloureuse. Cette fleur, cette graine qui s'en va, que lui advient-il? Où va-t-elle, la pauvre petite? Le vent souffle, durement l'arrache. L'oiseau passe, la pique et l'emporte. Le plus souvent, elle a l'air de mourir. Engloutie, elle tombe dans le sol noir, obscur, où elle est ignorée et comme dans l'oubli du sépulcre. Souvent aussi, l'homme, pour son usage, la torture de toute manière, la noie, la broie, la pile, lui inflige sans supplice. Toute nation a chanté cela. Toute humanité, de l'Inde à l'Irlande, en contes ou en ballades, a dit les aventures, les misères de cette jeune créature. Récit le plus souvent badin, seule la Grèce qu'on croit si légère n'a pas ri, au contraire pleuré. Le drame était trouvé d'avance. Ce qui fut vraiment du génie, c'est la création de Cérès, l'idée d'une adorable mère dont l'infinie bonté rend plus sensible encore la cruelle aventure. Puis la conception d'un divin cœur de femme grandi par la douleur. Elle devient l'universelle nourrice, nous prend tous pour enfants. L'humanité entière sera sa Proserpine. Conception infiniment pure, et la plus pure qui fut jamais, les sens n'y sont pour rien. La très touchante Isis qui pleure son Osiris ne fait aucun mystère de ses ardeurs d'Afrique, de son cuisant désir. Elle pleure, cherche, appelle un époux. Pour Cérès, l'objet adoré, pleuré, est une fille. Donc, jamais sa légende ne subira les équivoques des cultes plus récents, où la mère pleure un fils, où, rajeunie par l'art et plus jeune que lui, elle est souvent moins mère qu'épouse. Cérès est la pensée sérieuse des peuples agricoles. Le travail rend fort grave. Peu de raffinements amoureux ou mystiques chez ceux qui portent le poids de la vie. Rien de subtil, de faux. La vérité en ce qu'elle a de plus touchant, l'accord profond des choses que les âges sophistes ont plus tard séparées, l'accord parfait du cœur, de l'amour et de la nature, la beauté fleurissante de l'infinie bonté. Voilà ce que ces hommes simples conçurent, même exprimèrent au premier élan de l'art grec. Bien avant les marbres d'Égine, sinistre image des combats, la pacifique Cérès ornait de sa tête adorée les médailles admirables de Sicile, noble équilibre de beauté, simple, agreste, royale. Sa riche chevelure mêle son or à l'or des épis. Entre la joie, les larmes, dans les alternatives de bien, de mal, de soleil ou d'orage, elle a une chose immuable, la bonté. Elle aime, à l'égal de la plante, les troupeaux innocents, les douces brebis, et surtout les enfants. Elle est pour tous mère et nourrice. Sa belle mamelle, en tout temps, fût-elle en pleurs, veut allaiter. Elle est l'amour, elle est le miel, elle est le lait de la nature. Dur contraste de la destinée, Cérès, ce génie de la paix, est née en plein combat entre les puissances contraires. Elle fleurit au lieu où le drame des éléments n'est plus terrible, aux îles volcaniques, en Sicile. Si chaste, si pure qu'elle soit, elle est en butte à deux attractions fatales. Déesse de la fécondité, elle ne peut réaliser son œuvre qu'en subissant la céleste rosée, et d'autre part, les influences obscures des chaleurs souterraines, des haleines puissantes qui sont le souffle de la terre. Zeus lui en veut, Pluton aussi, elle est femme. La profondeur sombre lui fait peur. Elle qui n'est qu'amour et que vie, comment se déciderait-elle à épouser le roi de la mort? Elle hésite, mais en attendant, elle ne peut empêcher le ciel de pleuvoir dans son sein. Tout ce qu'elle en sait, l'innocente, c'est qu'il lui vient une petite Cérès qui fleurit d'elle, comme la plante en fleurs à une fille qui est elle-même. On sait l'histoire. La jeune fille, au printemps, loin de la mer, avec les nymphes, ses compagnes, cueillait des fleurs dans la prairie. Le premier narcisse fleurissait. Elle a désir, envie de la fleur des légendes, qui, comme on sait, fut un enfant. Elle s'y prend des deux mains, veut l'enlever, mais la terre s'ouvre, le noir Pluton surgit avec son char et ses coursiers de feu. Elle est enlevée, la petite, malgré ses pleurs, ses cris, et elle est si enfant encore qu'elle voudrait retenir ses fleurs, en vain. Elles inondent la terre qui partout verdoie et fleurit. Elle voit tout fuir dans ce vol, la terre, la mer, le ciel. On pense à la Sita, la fille du Sillon, enlevée dans le poème indien par l'esprit mauvais Ravana. Mais que la Grèce ici est supérieure et plus touchante. Sita n'a pas de mère pour la pleurer. Pauvre Cérès, tous les dieux sont contre elle. Ils se sont entendus pour lui navrer le cœur. Jupiter l'a permis. Nul n'oserait lui dire ce que sa fille est devenue. Elle prie, elle s'adresse à toute la nature. Mais nul augure. L'oiseau même est muet. Alors, désespérée, elle arrache ses bandelettes et ses longs cheveux volent. Elle prend les habits de deuil, le manteau bleu. Elle ne touche à nulle nourriture. Elle ne baigne plus son beau corps. Éperdue, quasi morte, portant les torches funéraires, 9 jours entiers, 9 nuits, elle court par toute la terre. Enfin, elle est anéantie, gisante. Hécate et le soleil finissent par en avoir pitié. Il lui révèle tout, malheur irréparable. Elle ne retournera plus dans cet injuste ciel. Elle erre misérable ici-bas. Courbée par la douleur, elle se traîne comme une vieille. À midi, sous un olivier, non loin d'un puits, elle s'assoit. Les femmes et les filles qui viennent y puiser lui parlent avec compassion. 4 belles jeunes vierges, filles de rois, l'accueillent, l'amènent à leur mère. « Qui êtes-vous ? Je suis la chercheuse. Des pirates m'avaient enlevée, j'ai fui. Donnez-moi un enfant à nourrir et à élever. » À ce moment, elle rayonne d'une telle splendeur de bonté que la reine est troublée, éblouie, attendrie. Elle lui met son enfant dans les bras, enfant chéri et le dernier, un enfant du vieil âge qui est venu 20 ans d'après ses sœurs. Cependant, la déesse a le cœur si serré encore qu'elle ne peut ni parler ni manger. Nulle prière, nulle tendresse ne l'y déciderait. Il y faut un hasard. Une fille rustique, hardie, jeune et joyeuse, Iambé, par un badinage à travers ce grand deuil, met un moment d'oubli, lui surprend un sourire. Elle accepte la nourriture, ni vin ni viande. Seulement la farine parfumée de menthe, la future hostie des mystères. Douce communion de la bonne déesse avec l'humanité. Pour ambroisie, nectar, elle prend le pain et l'eau. Bien plus, elle accepte l'enfant qui, dès lors, a 2 mères, est fils de la terre et du ciel. On devine aisément qu'il fleurit à sa riche mamelle, favorisé de son souffle divin. Imprégné d'elle, il change de nature. Elle l'aime et voudrait le faire Dieu. Le feu seul divinise, et l'épreuve du feu. Plus tard, c'est du bûcher qu'Hercule doit s'élever au ciel. Cérès, qui fait par la chaleur germer les délicates plantes, sait bien par quel degré son enfant, sans douleur, sans péril, peut subir l'épreuve. Chaque nuit, elle le met au foyer. Par malheur, la mère curieuse vient l'observer. Ses frais écrits, hélas, tout est fini. L'homme ne sera pas immortel. Il souffrira les maux, les misères de l'humanité. Ainsi, Cérès, qui a perdu sa fille, perd son enfant d'adoption. Plus désespérée que jamais, elle reprend sa course échevelée. Elle semble affamée de douleur. Le ciel lui est pesant et la terre odieuse. Elle sèche cette terre, ne produit plus. Quand sa déesse souffre, peut-elle être autre chose qu'un lugubre désert ? Cérès a rejeté sa divinité inutile. Elle erre dans les routes poudreuses. Elle s'assoit, mendiante, aux bornes du chemin. Toutes nos nécessités la siègent. Elle succombe de fatigue et de faim. Par pitié, une vieille lui donne un peu de bouillie qu'elle avale. Pour comble, elle est moquée. Un indigne enfant rit, la montre au doigt, imite et bouffonne son avidité. Cruelle ingratitude. Que l'homme rit de la bonne nourrice qui seule soutient la vie de l'homme. Mais la malice impie se punit elle-même. L'enfant sèche de méchanceté, il devient un reptile, le maigre, le fuyant lézard, sec habitant des vieilles pierres. Bonne leçon qui rendra charitable. Enfant, ne ris jamais du pauvre. Qui sait si ce n'est pas un dieu ? La terre souffre à ce point qu'elle émeut et effraie le ciel. Plus de moissons, plus de bestiaux. Les dieux, sans sacrifice, sont affamés aussi. On envoie à la mendiante les Isis, les Mercures et tous les messagers des cieux. Non, rendez-moi ma fille. Il faut bien que Pluton cède, un moment du moins. L'adorée échappe aux enfers. Elle arrive sur un char de feu. Elle embrasse sa mère. Celle-ci serait morte de joie. Qu'elle ait changé pourtant cette fille. Plus belle que jamais, mais si sombre. Beauté blessée, beauté fragile, mort et fleurs, hiver et printemps, voilà la double Proserpine, charmante et redoutable, qui presque impose à sa mère même. Ah, ma fille, es-tu bien à moi ? N'es-tu pas de l'enfer encore ? N'as-tu rien goûté de là-bas ? Pluton ne l'a laissé partir qu'en lui faisant prendre un pépin du fruit mystérieux de la fécondité. La grenade aux grains innombrables. En d'autres termes, elle rapporte la fécondation ténébreuse du noir empire et doit y retourner. Éternellement partagée, chaque année à l'automne perdue de nouveau pour sa mère, elle retombe au fond de sa nuit, et Cérès, au printemps, n'a la joie de la retrouver qu'avec la triste attente de la voir disparaître encore. Voilà la vie et ses alternatives. Cérès emporte tout le poids. Qui la consolera ? Le travail, le bien qu'elle fait à l'homme. Si elle n'en peut faire un dieu comme elle avait voulu, elle a en fait un grand travailleur, Triptolème, broyeur de la glèbe par la charrue et broyeur du grain par la meule. Le juste Triptolème, l'enfant du labourage, pacifique, économe, plein de respect pour le travail d'autrui, sage ami de l'ordre et des lois. Belle histoire, et si vraie, mêlée de joie et de tristesse, de sagesse surtout, d'admirable bon sens. Elle se traduisait populairement en deux fêtes fort simples, toutes de nature et sans mystère alors, sans raffinement. Au printemps, les antestéries, fêtes des fleurs, la belle Proserpine qui revient en couvre la terre. Elle ramène les enchantements de la vie. elle ne ramène pas tout le monde. Elle laisse là-bas nos morts aimés. La joie n'est pas sans pleurs, ne les voyant pas revenir. On tresse des couronnes pour tous, aussi pour les tombeaux. Souriante, mais attendrie, la femme couronne de fleurs son vieux père, son petit enfant. Il faut bien naître, puisqu'on meurt. Le deuil même commande l'amour. Cette fête des fleurs était celle de la fleur humaine, le grand jour de la femme et des sérieuses joies de l'hymen. La très chaste Cérès le voulait, l'ordonnait ainsi. À l'automne, les thesmophories, fête des femmes, fête des lois. C'est aux femmes que la déesse avait remis ses lois d'ordre et d'humanité, non sans raison, qui est plus que les mères, intéressées dans la société où elles mettent un tel enjeu, l'enfant, qui plus qu'elle est frappée par le désordre ou par la guerre. L'automne a double caractère, pour l'homme rafraîchi, reposé, qui n'a plus guère à faire que les semailles et déguster le vin nouveau, elle est gaie, parfois trop joyeuse. Mais les femmes se souvenaient que c'est pour Cérès le triste moment où elle voit sa fille descendre dans la terre. Elles opposaient cela aux empressements de leur mari et les fuyaient pour quelques jours. Souriantes elles-mêmes de leur sévérité et des gémissements qu'arrachait ce sevrage, elles allaient soit à la mer, au sombre promontoire où l'on adorait les déesses, soit au temple célèbre d'Éleusis quand il fut bâti. Elles y portaient en pompe les lois de Cérès, lois de paix, qu'au retour, elles pouvaient sans peine faire jurer à l'amour avide pour le futur bonheur de l'enfant désiré. Quelles sont donc ces lois si puissantes qui ont fait la société ? Fort simple, si nous en jugeons par celles qu'on a conservées. L'amour de la famille, l'horreur du sang, voilà ce qu'elle recommande, et rien de plus. Mais cela fut immense. Dans l'esprit de Cérès, la famille s'étend, devient la fratrie, la tribu, qui unie sera la bourgade unie, la cité. Point de sang, ne tuez personne, et pas même les animaux. Nulle offrande aux dieux que des fruits. Si l'animal est épargné, combien plus l'homme ? Point de guerre, la paix éternelle. Du moins, dans la guerre même, s'il la faut, un esprit de paix. Je vois d'ici l'autel de la pitié élevé dans Athènes. Je vois la paix divinisée aux grandes fêtes qui unirent les cités et en firent un seul peuple à Olympie, à Delphes. Le respect de la vie humaine, considérée comme précieuse aux dieux, sainte et sacrée, divine, contribua certainement, plus qu'aucune chose, à la faire juger immortelle. Si la fleur ne meurt que pour renaître, pourquoi ne renaîtrait pas l'âme, cette fleur du monde ? Le blé, dans ses naissances et ses renaissances éternelles, beaucoup mieux qu'aucun dogme enseigna la résurrection. Tant de siècles après, saint Paul, en ses épîtres, n'a nul autre argument que la vieille leçon de Cérès. En cela et en tout, elle fut la grande institutrice. Son culte populaire, enrichi et dramatisé d'une imposante mise en scène, aboutit fort tard au mystère qui, quoique attaqué des chrétiens, furent pourtant imités par eux. Immenses ont été ses bienfaits. Elle donna une base de chaleureux amour au léger esprit ionique qui n'était que transformation. Elle créa pour Athènes la société, ébaucha la cité, cette cité entre toutes humaines. Ce n'est pas la mobile fantaisie, l'imagination qui aurait enfanté la vie. Pour faire un monde, il faut tout autre chose, beaucoup d'amour, beaucoup de vérité. La maternité de Cérès, son pur amour, qui déborde en bonté, fut le saint berceau de la Grèce. Bien avant l'Olympe d'Homère, elle eut de longs siècles muets qui couvaient son avenir. Puissant, fécond foyer, de la légende d'une mère, elle conçut la flamme qui la fit mère aussi. Pour s'expliquer les âges où elle illumina la terre, il faut la voir d'abord enfant adoptée de Cérès, la voir quand elle prit le flambeau de sa main, ou quand, sous sa nourrice, elle cueillait les fleurs d'Éleusis ou d'Enna.